Et 6h45 sur France Culture, les enjeux internationaux qui reviennent sur ses excuses il y a quelques heures au nom de la nation américaine du président Trump lors de la prestation de serment de Brett Kavanaugh, ou comment la nomination d'un juge pour la Cour suprême devient une bataille pour le mouvement MeToo et peut-être une défaite. Bonjour Marie-Cécile Nave.
Bonjour.
Merci d'être venue. Vous êtes politologue, chercheuse associée à l'IRIS et auteure de Trump, la revanche de l'homme blanc, chez Textuel. Alors une nomination validée par le Sénat sur fond d'accusation d'agression sexuelle, victoire immense, disait Donald Trump, qui place son deuxième juge et remplit une promesse de campagne. Mais mauvaise nouvelle pour les droits des femmes, a déclaré Marlène Schiappa dimanche, tant il est vrai que cette nomination, d'habitude classique bataille républicain-démocrate, était aussi devenue depuis trois semaines la bataille symbolique du mouvement MeToo. Pour preuve, Alyssa Milano, initiatrice du hashtag, était à l'audition de Brett Kavanaugh. Le mouvement, lui, a bien provoqué la chute d'un certain nombre de personnalités des milieux culturels, du show business, Harvey Weinstein en premier lieu, mais en un sens, il a eu du mal à dépasser la barre de l'intelligentsia ou la barre politique. Pire, certains détracteurs estiment qu'il est allé trop loin. L'audition de Brett Kavanaugh elle-même à Washington, dans l'enceinte du Sénat, était une étape symbolique, mais elle a tourné en une sorte de procès public à ciel ouvert. Et le nombre record de femmes candidates au mid-term cette année n'est pas forcément une garantie de protection supplémentaire pour les femmes. Le vote du Sénat l'a montré. Défaite politique. En tout cas, Marie-Cécile Nave, après la phase de dénonciation, comme disent beaucoup d'analystes, il faut que le mouvement MeToo se trouve un avenir. Avec ce test symbolique, Brett Kavanaugh au Sénat, peu importe, disons, les instrumentalisations, mais en tout cas, on peut dire que c'est une défaite assez claire, symbolique pour ce mouvement MeToo.
L'affaire Kavanaugh est très intéressante, à la fois sur le fond et sur la forme. Sur le fond, c'est sans doute la plus forte gifle qui est apportée au mouvement MeToo pour son anniversaire. Et c'est absolument pas un hasard à ce sujet-là. Et sur le fond, Kavanaugh, il faut le voir aussi comme un instrument du Trumpisme, parce qu'il conforte le masculinisme de la présidence Trump, et probablement que le sujet des femmes, en particulier, c'est un sujet sur lequel le Parti républicain et Trump se rejoignent sans ambiguïté. Il y a beaucoup de sujets qui les divisent, mais sur la persistance d'un patriarcat blanc de Washington, là-dessus, ils se rejoignent. Et puis sur la forme, on a vu une théâtralité tout à fait intéressante à observer avec cette mise en scène de angry white men, comme les appelle Michael Kimmel, les hommes blancs en colère, qui sont là pour défendre leurs privilèges, qui ne veulent pas être doublés dans la file par les femmes. Et quand on voit Kavanaugh, quand il avait fait l'interview sur Fox News, il avait été trop doux, il a été trop gentil, avait dit Trump, et Trump a redonné plus de respect à Kavanaugh quand il s'est défendu avec vraiment beaucoup de colère, de rage. Au Sénat, c'était très frappant. Et puis d'autres personnalités comme le sénateur Lindsey Graham, qui a été aussi extrêmement en colère, montrait beaucoup de rage dans cette audition. Et bien tout ça, ça conforte le masculinisme de la présidence Trump. Et puis c'est aussi des promesses qu'il avait faites aux ultra-conservateurs, à la droite religieuse, de nommer finalement des gens un peu comme lui et qui vont défendre le patriarcat et lutter contre les droits des femmes. Ça, c'est très clair.
Et avec une scène effectivement assez hallucinante ou extraordinaire d'échange entre l'accusateur ou l'interrogateur Lindsey Graham, le sénateur, et Brett Kavanaugh, effectivement, et puis une attitude très angry white man, comme vous dites. Est-ce que il y a eu également une procédure très particulière lors de ce vote pour le Sénat, donc déjà ric-rac, si on peut le dire, mais effectivement une procédure où une sénatrice a pu s'excuser en raison de l'absence d'un autre sénateur, donc très, très inhabituel. Est-ce que ça veut dire qu'une porte de sortie a été aménagée à Kavanaugh par la Maison-Blanche?
Je crois que, sans entrer dans tous les détails de procédure, toutes les tactiques ont été utilisées pour que Kavanaugh soit confirmé, et c'est un passage en force des Républicains juste avant les élections de mi-mandat, et à la fois dans une dénégation des accusations de Christine Blasey Ford, mais finalement d'une décrédibilisation de la parole des femmes. C'est une manière de dire aux femmes, restez à votre place, ne venez pas dans l'espace public, comme McConnell, le leader de la majorité républicaine au Sénat, dit le Parti républicain a été assailli par la rue, nous avons été menacés par la rue. C'est une manière de dire, les femmes, restez à votre place, ne bousculez pas l'ordre établi. Et quand Trump s'excuse au nom de la nation, c'est quand même incroyable. C'est énorme qu'il dise ça. Il s'excuse au nom de la nation du mal qui a été fait à la famille Cavanaugh. Il ne s'excuse pas pour les femmes qui sont victimes de violences.
Et précisément, vous parlez de décrédibilisation du témoignage. C'était l'enjeu pour la nomination de Cavanaugh. Mais on a vu Donald Trump lui-même tenir des discours assez forts, notamment celui du Mississippi, où il ridiculise un peu le témoignage de Christine Blasey Ford en disant où était-ce quand I don't know, où il mime la situation. Il a également pris à partie le mouvement MeToo lui-même en parlant de situations très dangereuses. Est-ce que finalement, ce n'était pas la pire des situations pour le mouvement MeToo, cette audition à ciel ouvert avec Trump pour avocat de Brett Kavanaugh?
On peut toujours l'interpréter de cette manière-là, mais ça montre aussi que ce pouvoir, s'accroche et n'est pas prêt à lâcher ses privilèges. Ça met au jour la nécessité, sans doute, pour le mouvement MeToo d'utiliser d'autres types de mobilisation. Et on voit que ça arrive maintenant sur les réseaux sociaux, dans la presse, avec des encouragements de figures comme Alyssa Milano à aller voter le 6 novembre prochain. C'est-à-dire que ça suffit pas, les mobilisations dans la rue. Il faut aussi renouveler le Sénat, dit-elle. Elle fait la liste des États dans lesquels on peut encore aller s'inscrire sur les listes électorales. Et puis, du côté républicain, ce qui est intéressant aussi, c'est que ça s'inscrit dans un agenda politique qui est de limiter les droits des femmes et de défendre toujours non pas les hommes, mais un certain patriarcat, parce que vous avez la ministre de l'Éducation, Betsy DeVos, qui est en train de revenir sur les mesures d'Obama qui défendait les victimes supposées de viol sur les campus américains et pour au contraire défendre potentiellement défendre les agresseurs potentiels. Et c'est lié à l'affaire Kavanaugh, parce que Kavanaugh, quoi qu'il se soit passé quand il était adolescent ou quand il était à l'université, les républicains défendent cette culture du viol, cette culture qui est censée être potache, où c'est comme ça en fait, c'est comme ça, les hommes ont besoin de s'amuser et puis les femmes doivent rester à leur place. C'est toute cette ambiance-là, au-delà des faits qui se sont ou non produits dans les années 80. C'est toute cette ambiance-là qui est en jeu. Et puis, effectivement, il y a les manifestations de rue de MeToo doivent, et je pense que les leaders de cette manifestation s'en rendent compte, doivent se traduire électoralement, doivent prendre peut-être, arriver à une autre échelle, alors, prendre plus d'ampleur et se concrétiser dans les urnes, à la fois en mobilisant les femmes démocrates pour qu'elles aillent voter, mais aussi en défendant pendant la campagne les femmes qui sont candidates. Et comme vous l'avez dit, il y a un record de femmes candidates au Congrès.
Et précisément, 173 femmes candidates pour le Congrès, 11 pour le Sénat, je crois. Ouais. Mais si jamais toutes sont élues, même au Congrès, ça fera jamais qu'un quart du Congrès qui est occupé avec des postes féminins. Qu'est-ce que ça peut changer politiquement, sachant que les femmes n'ont pas été tendres, hein, forcément, envers Christine Blasey Ford ou les témoignages des accusatrices de Kavanaugh?
Alors évidemment, sociologiquement, l'électorat féminin n'est pas monolithique. Il faut aussi croiser avec l'origine sociale, avec le niveau de diplôme, les femmes blanches et les femmes issues des minorités, si elles sont mariées ou pas mariées, si elles vivent en zone urbaine ou en zone rurale. Tout ça, il faut croiser, c'est une équation complexe. Mais ce qui est intéressant, c'est que le nombre record de femmes qui s'engagent, surtout du côté démocrate, dans cette bataille pour les élections de mi-mandat, porte un agenda qui n'est pas que l'agenda des droits des femmes. C'est aussi la lutte contre les inégalités économiques, la défense de l'environnement, les enjeux de santé. Donc il y a un renouvellement non seulement potentiel du personnel politique, mais aussi de l'agenda pour le pousser le curseur plus à gauche. Et ça, c'est intéressant aussi dans la perspective des élections de 2020.
Et précisément, si on parle, disons, de sortir de la phase de dénonciation et de pousser plus avant certaines mesures dans la société, donc création d'un nouveau hashtag Why I Didn't Report, tout récemment, pourquoi je n'ai pas dénoncé, justement, relativement à ce que vous disiez, certaines mesures de visibilité prises par le New York Times, des articles contre le mépris historique, mais aussi une mobilisation, ce qu'on appelle des travailleurs pauvres contre le harcèlement, notamment McDonald's, une procédure qui n'a pas complètement abouti. Qu'est-ce que ça donne, disons, la mobilisation sociale aux États-Unis?
En tout cas, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'effectivement, il y a de plus en plus de revendications portées par les femmes et de manière collective qui s'exprime. Et ça donne aussi, ça entretient, ça nourrit le message que d'une certaine sororité, j'ai envie de dire. Oui. C'est ça qui porte aussi beaucoup
c'est
de...
C'est ce que disait Alison Milano. D'ailleurs.
C'est ce que disait Alison Milano, et notamment les nouvelles générations qui utilisent d'autres canaux de d'expression de ces revendications, les réseaux sociaux, mais aussi différents slogans, la manière d'interpeller également les élus pour qu'ils portent leur agenda. Donc il y a à la fois un renouvellement de génération, un renouvellement des sexes, si je puis dire, et puis un renouvellement de l'agenda. Et tout ça fait système. Et effectivement, je crois que les élections du 6 novembre vont être très intéressantes à observer parce qu'il est possible qu'il y ait également une galvanisation de l'électorat républicain. Et c'est ce que dit Trump et c'est ce sur quoi mise aussi le Parti républicain parce que la dynamique Trump galvanise cet électorat religieux, conservateur, plutôt masculin, plutôt blanc. Mais les démocrates comptent aussi sur une mobilisation très forte de leur propre électorat, comme on l'a vu dans les élections intermédiaires jusque-là.
Eh bien, à suivre. 6 novembre et puis le 11 de cette semaine, nouvelle audience de Harvey Weinstein. Merci beaucoup Marie-Cécile.
Merci.
Merci.